France Musique. France Musique, les grands entretiens, Saskia Deville.
Je m'appelle Jérôme Pernaud, je suis violoncelliste, je suis né en 1972 à Nantes.
Jérôme Pernaud, alors on l'a compris, hein, un univers familial, un environnement familial extrêmement musical. Papa, chef d'orchestre, directeur de conservatoire, maman, violoniste amateur, sœur, pianiste, et puis de la musique partout, dans toutes les pièces à la maison. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le violoncelle? Ça a été un choix immédiat?
J'avais le choix, mais j'avais le choix entre le violon et le violoncelle, parce qu'il fallait que ce soit un instrument à cordes, parce que ma sœur faisant déjà du piano, et elle est un peu plus âgée que moi, mon père avait décidé que ce serait mieux un instrument à cordes, bon, et puis...
Comment avez-vous reçu cette demande?
Comme un enfant peut le recevoir, ah bon, d'accord, c'est pas... Bon, j'avais aucun a priori, disons, sur cette question, simplement j'ai vu un... concert, où il y avait donc une violoniste et une violoncelliste. Et puis j'ai repéré que la violoncelliste jouait assise. Et je me suis dit que ça devait être quand même bien plus confortable, et donc j'ai choisi celui-là. Voilà, je savais pas qu'après j'allais devoir porter mon violoncelle toute ma vie, et que finalement c'est peut-être pas si confortable d'avoir ce gros machin sur le dos. Mais c'est assez drôle, parce qu'aujourd'hui je me vois tellement pas violoniste. Et j'ai l'impression que l'étude d'un instrument forge quelque chose dans la personnalité qui est propre à l'instrument. À 5 ans, quand on commence le violoncelle, ça fait plaisir à papa, ça fait plaisir à maman, ça fait plaisir à la grand-mère. J'ai hâte qu'il travaille le signe de Saint-Saëns, etc. Enfin bon, voilà. Et puis le jour où on commence à faire... Alors là, c'est le plus grand jour de notre vie parce que tout le monde connaît ça, tout le monde est sous le charme, etc. J'avais cet âge-là, même 5-6 ans, dès le départ, ce qui m'intéressait, c'était de communiquer avec mon violoncelle. C'était plus ça que le violoncelle lui-même ou la musique elle-même. C'était vraiment...
Communiquer avec le public?
Oui, avec le public. C'est-à-dire que même à la maison, il fallait faire des concerts, quoi. C'est-à-dire, j'allais jouer mon morceau, voilà, je m'installais, il fallait que ce soit dans l'encadreur de la porte comme si c'était un cadre de scène. Il y avait vraiment cette dimension-là. Peut-être ça, la ligne de force.
Le regard de l'autre?
Non, l'envie de transmettre. C'était pas tellement ce qu'on en pense. Ce qu'on pense de ce que je fais m'importe peu, et encore aujourd'hui. Alors, enfin, c'est facile à dire, en même temps, évidemment que ça me fait de la peine si on me dit que on n'aime pas ce que je fais, bien sûr, comme tout le monde. Mais ça n'a jamais été une question, en fait, au moment de faire. A posteriori, oui, on peut être sensible à ce que les gens pensent, mais au moment de faire, je ne prends jamais en considération cette question du regard des autres, de ce qu'ils vont en penser. Ils en penseront ce qu'ils voudront, bien sûr. Et ça, en fait, c'est une liberté intérieure fondamentale, et je ne saurais pas dire exactement comment je l'ai acquise, cette liberté intérieure, mais elle s'est beaucoup développée dès le jeune âge, dès l'adolescence en fait.
Alors, quels sont les atouts du violoncelle par rapport aux autres instruments quand il est question de transmission ?
L'instrument n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit avec. Le stylo avec lequel Proust écrivait, en fait, je m'en fiche. Je trouve que, justement, l'importance qu'on donne à l'instrument peut être néfaste si ça passe devant l'importance de ce que l'on dit avec l'instrument. Encore aujourd'hui, en tant que prof, j'accuse très souvent mes élèves de faire du violoncellisme, ce que j'appelle du violoncellisme, c'est-à-dire voilà, faire un beau son grave là sur la corde de Do, qui est la corde la plus grave du violoncelle, qui est celle pour laquelle on aime le violoncelle, tous les violoncellistes, évidemment, hein, c'est très chaleureux, c'est beau, quoi, c'est une voix de grand-père rassurante, voilà, c'est plein, puis c'est le violoncelle, c'est évidemment, bon, c'est une tarte à la crème de le dire, mais c'est la voix humaine, c'est vocal, c'est voilà, ça ressemble, ça nous touche de très près, parce que ça, c'est ce qui ressemble le plus. Très souvent, on finit par se gargariser de ce beau son et on finit par ne plus rien dire avec. C'est-à-dire à partir du moment où le son devient l'objectif, le sens n'est plus là. Et c'est exactement comme un comédien. On sent bien des comédiens qui aiment leur voix, qui travaillent leur voix et qui finalement n'ont plus le ton juste parce que simplement ils sont en train d'écouter leur voix plutôt que d'être dans le sens de ce qu'ils disent. C'est la même chose.
Mais un violoncelle, on en parle très très souvent, hein. Il y a ces instruments qui sont vieux de plusieurs siècles. On a à la fois un instrument et puis une œuvre d'art aussi entre les mains. C'est quelque chose tout de même qui vous impressionne parfois d'avoir des instruments qui ont une histoire incroyable.
Alors, pas du tout, je vais vous décevoir, mais je m'en fiche éperdument. D'ailleurs, ça ne ferait pas plaisir à mon luthier que j'adore, Franck Ravatin, qui m'a construit un violoncelle rien que pour moi il y a 20 ans, et que je joue toujours, et je ne joue que celui-là. Non, ce n'est pas vrai, parce que j'ai aussi un violoncelle baroque, qui pour le coup est du 18e siècle italien, et puis un violoncelle piccolo. Mais en tout cas, pour ce qui est du violoncelle moderne, je joue sur ce violoncelle magnifique de Franck Ravatin. Et c'est un violoncelle magnifique parce que il sonne très bien, il a énormément de sons, je peux me faire entendre, et il a un son très chaleureux, très timbré, magnifique. C'est un artisanat sublime, mais c'est pour moi un moyen d'exprimer des choses bien plus grandes que le son lui-même. Que sont la grandeur qu'exprime Bach dans ses suites ou la chaleur tendre qu'exprime Brahms dans une sonate ou dans son double concerto.
S'exprimer, pour se faire entendre, il faut avoir aussi une certaine confiance. Vous évoquiez tout à l'heure ce développement de liberté intérieure. Mais justement, où avez-vous puisé cette confiance? Comment l'avez-vous construite?
Mon père m'a apporté énormément cette confiance, cette solidité intérieure, cette bouée. Je l'ai toujours ressenti comme une bouée qui fait que de toute façon, on ne va pas couler. Si on aime la vie, on ne coule pas. Si on est capable de, quoi qu'il arrive, de se dire, ah, je respire, et de toute façon, si je respire, tout va bien. Rien que ça. Voilà. Bon, bah, là, on peut faire face à toutes les situations. Même s'il y a des situations extrêmement difficiles, bien sûr, hein, je ne minimise pas les circonstances difficiles d'une vie. Mais si on a cette capacité à se relier à sa respiration et à sentir que tant que ça fonctionne, tant qu'on peut être conscient d'être, tant qu'on peut regarder un ciel étoilé la nuit, tant qu'on peut regarder un coucher de soleil sur la mer, on est sauvé. Parce que on est en relation avec une joie tellement plus profonde que la joie liée aux circonstances de la vie, que voilà, on est paré aux différentes situations. Alors, donc, ça vient beaucoup de là. Ça vient aussi d'une quête personnelle. J'ai lu beaucoup de philosophes indiens, enfin pas en général d'ailleurs, mais enfin un en particulier qui s'appelle Jiddu Krishnamurti. Je pourrais parler aussi d'Anthony de Mello ou Eckhart Tolle. Ce sont des gens qui apportent des réflexions sur l'éveil de la conscience, arriver à sentir qu'on est là, qu'on est bien là, dans le moment présent, qu'on est en relation avec le monde, en relation avec les gens qui nous entourent, en relation avec l'arbre, quand on regarde l'arbre dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye ou ailleurs.
Cela dit, Jérôme Pernoud, la vie ne vous a pas emmené vers une carrière de trompettiste. C'est quelque chose pourtant qui vous a traversé l'esprit avant que votre papa ne vous oriente vers un instrument à cordes.
Absolument. Donc, je devais avoir 4-5 ans et j'étais avec ma grand-mère dans le train. Les voyages en train duraient très très longtemps pour aller dans le sud en vacances ou je sais pas où. Et puis, on était dans des compartiments. Et puis, dans les compartiments, donc on faisait connaissance, on discutait avec les gens qui étaient là. On n'était pas chacun devant son petit écran. Il y avait forcément une communication. Il y avait forcément le moment du pique-nique partagé. Il y avait, etc. C'est marrant, c'est des souvenirs comme ça qui remontent d'une autre époque. Et donc, dans la conversation, évidemment, la dame qui était en face de moi dit « Alors, toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et je lui avais répondu « Je veux faire Mozart, mais à la trompette. »
France Musique, l'écran d'entretien de Jérôme Pernoud.
C'était pour le côté éclatant,
ah bah oui,
brillant.
C'est le cuivre. Non, puis c'est très beau la trompette. Le son est très très chaleureux en fait. Le son de la trompette, il est brillant, il est fort, il est puissant, mais il est chaleureux. Il a cette chaleur. J'aime beaucoup. Encore une fois, c'est marrant. Je pense que même à l'époque, quand j'avais 5-6 ans, l'instrument m'importait peu. Pour moi, l'intérêt de la chose, de faire de la musique, c'était pas d'avoir tel ou tel instrument. C'était de pouvoir être sur scène et de transmettre quelque chose à un public.
Et pourquoi pas le métier d'acteur, alors ?
Mais pourquoi pas ? D'ailleurs, j'ai pris des cours de théâtre. J'avais 15 ans, 16 ans. J'en avais marre du violoncelle, des gammes tous les jours, du travail. Et puis j'étais évidemment en conflit avec les parents, avec de toute façon, c'est eux qui m'ont mis là-dedans. J'ai pas choisi, etc. Bon, la crise d'ado, normal. Et donc j'ai pris des cours de théâtre. Je me suis inscrit à un cours privé. Ça a été un moment extraordinaire de ma vie d'adolescent, parce que d'abord c'était mon truc à moi. C'était vraiment mon choix, c'était ce que je voulais faire, c'était pas commandé par qui que ce soit autour. Et alors je sais plus comment j'avais rencontré cette prof de théâtre qui s'appelait Maria Munk. Cette femme était magnifique, une prof qui donne envie, qui inspire, qui explique les textes, puis en même temps qui donne vraiment de la technique, quoi, d'acteur, des exercices, etc. Enfin bon, j'ai passé un temps merveilleux.
Et vous vous rappelez d'un rôle en particulier qui vous a marqué ?
Oui, oui, oui. C'est le rôle de Lysandre dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et elle donne à un des élèves qui était plus avancé dans le cours le rôle du metteur en scène. Moi, j'ai cru que le metteur en scène, il nous disait tout ce qu'on devait faire. Et du coup, ce rôle, pour moi, a été un échec cuisant parce que je ne faisais rien. J'attendais qu'on me dise quoi faire. Échec cuisant au moment de la représentation. Je sais pas si vous vous souvenez du rôle. Lysandre s'endort dans la forêt. Puck lui met un petit filtre d'amour pour que quand il se réveille, il tombe amoureux de la bonne personne. Et en fait, il se retrouve en face d'un âne. Et donc, il tombe amoureux de l'âne. Et puis, voilà, bon. Toute la pièce, c'est d'arriver à ce qu'il se rendorme pour qu'il se réveille devant, enfin, la bonne personne. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je ne me suis pas réveillé. Voilà.
Vous êtes endormi sur scène.
Je me suis endormi sur scène, ou en tout cas, je n'ai pas fait assez attention au top dans la tirade de Puck qui devait faire le moment où je me réveille et où je me retrouve devant la bonne personne. Donc, ça a été horrible, quoi. J'ai foutu en l'air complètement la représentation. Bon, ça a été grave pour moi. Parce que le théâtre, j'adorais ça. C'était un truc, je me trouvais bon là-dedans et tout ça. Et puis là, bon, c'était vraiment l'horreur. En fait, c'était très éclairant. C'était une sorte d'épiphanie pour le violoncelle. Parce que j'ai réalisé, après cet échec, qu'en réalité, en tant qu'acteur, j'aurais dû proposer des choses. Et que le metteur en scène, lui, il devait plutôt donner une direction générale, mais surtout que son rôle, c'était de canaliser ce que propose l'acteur, de se servir de son énergie, de se servir de ses propositions pour construire sa pièce et sa mise en scène. Et j'ai fait le rapprochement, tout d'un coup, entre ça et le cours de violoncelle. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, mon prof de violoncelle, il devrait avoir le rôle du metteur en scène. Et moi, le rôle de l'acteur, à savoir d'arriver en cours et de proposer quelque chose. Et alors là, ça a été fulgurant. C'est-à-dire que j'ai commencé à arriver en cours en proposant artistiquement quelque chose sans juste attendre qu'on me dise tout, quoi, comment faire. Thank you. J'adore être un interprète. Je pense vraiment, je suis un interprète dans l'âme, j'allais dire. C'est-à-dire que je suis pas du tout un créateur. Je me sens pas créateur devant l'œuvre. J'ai pas énormément de choses à dire moi-même. Par contre, transmettre ce que je trouve beau, moi, c'est une chose qui fait partie de moi. Pour moi, l'œuvre d'art est une vulgarisation de la beauté la plus sophistiquée, la plus incroyable que puisse inventer un être humain. On est là, nous, pour rassembler tout ce qu'il y a eu d'études spécialisées, toute notre compréhension de l'œuvre d'art, tout ça avec notre sensibilité qui fait qu'évidemment, un interprète ne fera pas la même interprétation qu'un autre interprète parce qu'il a son background personnel, parce que voilà, il a vécu ce qu'il a vécu, qu'il a compris ce qu'il a compris, etc. Mais je suis là pour vulgariser la musique que je joue. Moi, j'ai toujours été fasciné par les Hubert Reeves, les Charpak, les Albert Jacquard, et tout ça qui m'ont fait accéder à des choses auxquelles je devrais pas pouvoir accéder parce que j'ai pas fait des études d'astrophysique ou de biologie poussée. Mais ils me font accéder à quelque chose. Et je pense que mon rôle d'interprète, c'est ça avec la musique.
Le final de la deuxième sonate en fa majeur opus 99 de Johannes Brahms. C'est avec ceci que se termine le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Jérôme Pernaud. Réalisation Christine Amado, prise de son Sébastien Royer, mixage Claude Niort, attaché de production Flora Sternadel. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.